Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, les perplexités du prophète.
Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Dans la traduction hébraïque, il est dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Et également, pourquoi te dérobes-tu dans la détresse? Petite nuance entre se cacher et se dérober. L'impression que Dieu nous donne qu'il ne veut peut-être pas nous répondre, ou qu'il ne tient pas ses engagements, ou que quelque part, eh bien, finalement, il laisse les choses aller dans ce sens. Alors ça, c'est notre première lecture. On va en faire d'ici quelque temps une autre, mais j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce mot qui est dans nos bouches tous les jours. Pourquoi? Ça vous est jamais arrivé de dire pourquoi? Eh oui, pourquoi ceci, pourquoi cela? Les innombrables pourquoi de la vie des hommes. Alors, ça, on est familiarisé avec ce genre d'approche ou ce questionnement. Le mot pourquoi est mentionné, figurez-vous, plus de 200 fois dans la Bible. Il y a les pourquoi de Dieu à Adam. Pourquoi te caches-tu? Il y a les pourquoi pathétiques de Jésus à la croix. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Il y a certains pourquoi qui sont mentionnés dans la bouche des anges. Figurez-vous, oui. Il y a les pourquoi des grands hommes de Dieu. Je pense à Moïse en particulier. Oui. Je pense à Job. Ah, le pauvre. C'est tout au long de son livre, 52 chapitres, c'est pratiquement formulé d'une manière ou d'une autre, ça se décline d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des pourquoi. Il y a les pourquoi de tous les hommes de foi qui se succèdent, et les hommes de foi, les chrétiens aujourd'hui et d'hier. Alors, plus de 200 fois. Adverbe interrogatif qui sert à connaître la ou les causes, ou le ou les buts des choses et des événements. On ne comprend pas tout. De l'autre côté, on comprendra tout. Mais ici-bas, il y a un voile, il y a là comme quelque chose d'opaque. Le livre du prophète Habacuc. Vous connaissez un livre énorme, 3 chapitres, vient soutenir le livre de Job. Et il est le livre des grandes interrogations et des grandes perplexités de l'existence. Vous connaissez le livre d'Habacuc? Oh, il n'est pas difficile à lire, Il est très court. Mais dans ces quelques paroles, il y a là, en quelque sorte, une formidable réponse de Dieu à tous les hommes, dans tous les temps, et jusqu'à nous. L'homme, il faut le dire, a toujours cherché à savoir ce qu'il ne comprend pas. Et on appelle ça des mystères. Alors, on a un apôtre qui s'appelle Paul, et qui nous fait rentrer dans les mystères de Dieu. Vous connaissez les épîtres? Je pense à Éphésiens en particulier, où là, eh bien, si nous nous interrogeons sur des choses qui appartiennent à l'au-delà, à l'invisible, au royaume de Dieu, le royaume caché. Alors, nous essayons là de comprendre que Paul va lever le coin du voile pour nous laisser entrevoir, pour soutenir notre foi et notre espérance. Alors, c'est vrai que l'homme s'est cassé la tête pour essayer de savoir, l'homme en général, pour essayer de comprendre. Et en voulant comprendre en l'absence de Dieu, ou en sortant du plan de Dieu, Ben, il s'est créé beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés parce qu'il est parti souvent dans des chemins de traverse, hein, dans des chemins sans issue. Alors, on va prendre maintenant Habacuc. Alors, Habacuc, c'est un personnage. C'est un personnage qui est très intéressant parce que vous allez voir, à commencer par son nom. Vous savez ce que veut dire Habacuc ? Amour. Ou encore, je le décline sous d'autres mots, celui qui aime, mais qui aime en souffrant. Celui qui embrasse également. Alors, c'est l'affection, c'est la tendresse. C'est un homme qui étreint dans son cœur parce qu'il sait, enfin, il ne sait pas tout, mais il sait, ou il cherche à comprendre, et il souffre plaisir profondément parce qu'il aime. Vous savez, hein, d'aimer, hein, ça fait souffrir, n'est-ce pas ? Oui, ça fait souffrir. Aimer le Seigneur, ça fait souffrir. Aimer ceux et celles qui sont autour de nous, ça fait souffrir. Alors Habacuc, c'est ça. Celui qui aime l'amour en souffrant, en quelque sorte. Et nous lisons la première partie où il est dit ceci, chapitre 1er. Et il dit, « Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi te tais-tu ? Pourquoi me fais-tu, pardon, voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie ? La justice n'a-t-elle point de force ? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Voilà ce qu'il dit. Il y a un prédicateur qui m'a marqué profondément. Vous connaissez son nom ? C'est le pasteur M. Butler. Et je me souviens, j'avais 20 ans à l'époque, c'était à l'occasion d'une convention nationale des pasteurs, et il avait donné un message sur Habacuc, extraordinaire, comme il savait le faire, conduit et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça m'a toujours marqué, ce livre est toujours resté au fond de mon cœur comme quelque chose de très fort, en se souvenant de ses paroles, en se souvenant de cette prédication. Et à chaque fois que je tourne les pages de ce livre, eh bien, il y a toujours cette émotion et ce message très fort, qui est un formidable message d'encouragement. Et ça commence comme cela. Et ce n'est pas forcément encourageant. Écoutez, « Jusque à quand, Éternel ? J'ai crié, et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié à la violence, tu ne me secours pas. Pourquoi tu me fais voir l'iniquité ? Pourquoi tu contemples l'injustice ? Pourquoi il y a des querelles ? Pourquoi il y a de la discorde ? Et la loi que tu as mise en place, pourquoi est-elle sans vie ? Parce que tout le monde la bafoue, cette loi. Et le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. » Alors ça commence bien, hein ? Je vous ai parlé que c'était un livre encourageant. Oui, vous l'avez entendu, c'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un instant. Hein ? Eh oui. Et les deux mots forts, c'est « Jusque à quand, Seigneur ? Et pourquoi ceci et pourquoi cela ?» Je voudrais vous donner quelques mots de l'explication du livre. Il est question des faits cachés de l'histoire vus à la lumière de la foi. Voilà, c'est comme cela que les choses sont présentées. Voilà. L'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, notre histoire aujourd'hui, ce que sera demain, notre monde, ce que sera notre vie, ce que sera l'Église, ce que sera la société en général, ce que sera le christianisme, ce que sera la foi quand on entend Jésus dire « Mais lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver encore la foi sur la terre ?» Alors c'est bien marqué l'histoire, on a bien compris, c'est vu à la lumière de la foi, mais ça commence mal quand même. Hein. Le grand problème du prophète Habacuc, écoutez bien ceci, c'est qu'il cherche à réconcilier ce qu'il observe autour de lui, comme nous sommes observateurs de notre monde d'aujourd'hui, cette observation du monde dans lequel il était avec ce qu'il croit. Et c'est bien le problème des chrétiens. Nous avons foi en Dieu, nous croyons dans sa parole, nous avons des convictions, des certitudes, nous avons des assurances, nous nous appuyons sur ses promesses. Et puis finalement, le monde qui est autour de nous, eh bien, tourne d'une autre manière. Et nous essayons de réconcilier ce que nous essayons de comprendre dans tout ce qui se passe autour de nous, dans les nations, dans les peuples, les guerres, la géopolitique et tout ce que vous voudrez, l'économie et tout ce que vous voudrez. On est des chrétiens, on est dans le monde. Et on est naturellement, eh bien, là, finalement inconscient de tout ce qui se passe. Et nous essayons de réconcilier tout ça avec notre foi et de dire, mais Seigneur, jusque à quand ça va durer? Jusque à quand cette comédie humaine va continuer? Il y a du sang, il y a des gens qui ont faim, il y a des enfants qui sont écrasés, il y a ceci, il y a cela. Et on se dit, mais comment comprendre tout cela? Et c'est terrible, c'est terrible. Et nous sommes au milieu de tout ça. Comment comprendre? Alors Habacuc, c'est un homme profondément troublé par les événements de son temps. Et on parle des événements d'aujourd'hui, mais je pense que le passé, il y a toujours eu des événements. L'histoire est là pour nous le rapporter. Ouais. Les événements de son temps. Son anxiété à cet homme, c'est un croyant, c'est un prophète qui plus est liée à ce qui allait arriver, je dis bien à ce qui allait arriver demain ou après-demain, et ça concernait l'avenir de la nation à laquelle il appartenait, c'est-à-dire Israël, Juda en particulier, Juda, auquel naturellement, eh bien, il était lié, et devant tout cela, eh bien, il tremblait. Je crois que quelquefois, devant ce qui nous arrive, devant ce que nous entendons, les informations à flot continu, à jet continu, peuvent parfois nous faire poser des questions. Hein. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, on a compris la science de son nom, celui qui aime, parce qu'il aimait Dieu et il aimait son peuple. Mais pourtant, le peuple de Dieu, le peuple de Juda, n'était pas forcément aimable ou à aimer, compte tenu de certaines choses, certaines situations. Alors, à ce moment-là, il est malheureux, hein, Habacuc, et parce qu'il est prophète de Dieu. Et le Seigneur va lui révéler qu'à cause des infidélités de son peuple, Dieu, écoutez bien, va susciter une nation barbare, et pas des moindres, les Chaldéens, qui au moment où la prophétie est écrite, c'est une petite nation, qui semble complètement inoffensive, parce que la grande nation, ce sont les Assyriens actuellement qui dominent le monde. Comme aujourd'hui, il y a une puissance qui domine le monde. Et pourtant, à l'horizon, il y a un petit peuple qui va prendre le pas sur les Assyriens, qui va tout renverser l'ordre du monde, l'ordre militaire, l'ordre d'une façon ou d'une autre. Et nous voyons que ce peuple est un peuple de grande barbarie. Et il va monter par la volonté de Dieu. Et il va envahir tout le Moyen-Orient et entre autres jusqu'en Israël, et ça va être la guerre. Et cette guerre, et c'est ce que le prophète voit, sera suivie d'une épouvantable dévastation. Alors, je voudrais quand même le dire en disant tout cela, le préciser en disant tout cela, je ne suis pas un prophète de malheur, hein, et ce n'est pas mon habitude de dire ceci ou cela. Et vous savez que nous sommes actuellement, depuis près plusieurs mois, en étude sur le livre de l'Apocalypse. Alors, on ne va pas insister, marquer le trait plus qu'il ne faut. Mais je pense, il faut que l'Église, il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, prennent conscience dans quel temps nous sommes. Parce qu'il va y avoir des réveils de toute nature, des pseudo-réveils. Il y aura des réveils brutaux. Il y aura des réveils authentiquement venant de Dieu. Alors, dans tout cela, il faut que nous prenions vraiment la mesure de notre temps et de ce qui se passe. Je voudrais donner tout de suite une remarque avant d'aller dans le texte. Il ne faut jamais oublier que Dieu permet souvent que les choses empirent avant qu'elles ne commencent à s'améliorer. J'ai un ami, un frère, qui est déjà très âgé, qui m'a souvent dit: Alain, il faut que ça aille plus mal pour que ça aille mieux. C'est très réconfortant, mais il avait raison. Et il a raison, parce qu'il est toujours vivant. Hein? Et c'est vrai que, attention, quelquefois nous espérons, ah Seigneur, tu délivres, tu fais ceci et cela, mais quelquefois c'est le contraire qui se passe, comme c'est écrit dans un psaume, qui est un cri de détresse du peuple d'Israël, en disant, mais Seigneur, tu ne sors plus avec mes armées, tu ne nous bénis plus. Et Dieu va leur dire pourquoi il ne les bénit plus. Pourquoi il y a ceci et cela? Et c'est souvent ce que nous voyons, il faut que ça aille quelquefois plus mal pour que ça s'améliore. Et en fait, d'aggravation, écoutez ce que dit le prophète, ce que Dieu dit au prophète, toujours dans le livre d'Habacuc, verset 5, « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas. Si on vous la racontait, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, ce peuple. Et ça va tomber sur la tête de Judas. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. Et pourtant, on ingurgite des dizaines de mauvaises nouvelles tous les ans. Et on les accepte, hein, on n'a pas le choix, remarquez. Hein. Et bien là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle pour le chrétien et l'enfant de Dieu, celui qui a foi? Est-ce qu'il le voit avec ses yeux charnels ou il le voit à travers les yeux de la foi? Est-ce que Dieu est capable de changer le mal en bien? Alors tout ça, c'est le problème d'Habacuc. Habacuc, en fait, ne comprend pas la permission de Dieu. La permission de Dieu, alors il prie, plus que cela, parce qu'il souffre d'amour pour son peuple. Il crie. Il crie, mais la réponse qu'il reçoit est toute différente de ce qu'il attendait. Ça ne vous est jamais arrivé, ça ? De dire, Seigneur, j'ai prié dans ce sens et finalement tu m'as donné autrement. Je ne comprends pas, Seigneur. J'ai demandé à être guéri et pourtant je suis encore malade. Seigneur, cette personne est à la mort, ce frère et cette sœur est à la mort. Et tu l'as emmené, tu l'as pris avec toi et nous espérions qu'elle demeurerait avec nous. Seigneur, pourquoi n'étais-tu là ? N'étais-tu pas là ? Parce que mon frère sera encore vivant aujourd'hui. Vous connaissez là la réflexion de Marthe et de Marie à Jésus. Il y a 8 jours, nous avons vécu une tragédie. Un jeune homme de 24 ans, un enfant d'une église, est parti. Oui, il est parti à 24 ans. Et ce sont des choses incompréhensibles. On s'est dit, mais pourquoi ? Il avait toute la vie. Il avait une situation, il avait réussi ses examens et tout cela. Ça, ce sont des perplexités. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Que nous ne comprenons pas. Et quelquefois, on va dans un sens et finalement, eh bien, c'est une autre réponse. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je t'ai demandé un travail et je m'aperçois que tu me l'as donné le travail. Mais je vis dans une équipe, ils sont épouvantables. Eh oui, j'ai un chef, mais il est fou. Et je suis bien obligé de faire avec parce qu'il faut que je gagne ma vie et... Eh oui. Et puis tant de choses comme cela. Seigneur, pourquoi tu m'as donné de perdre alors que j'aurais pu gagner ? Ah oui. Moi, je ne parle pas du loto. Là, c'est une autre aventure. Mais il y a des choses qui sont semblables. Pourquoi, Seigneur ? Je m'attendais à ceci et puis finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Alors nous allons brièvement découvrir l'étrangeté des voies de Dieu. L'étrangeté. Il y a des choses qui nous sont étranges. D'abord, pour donner un profil rapide de ce livre, nous allons découvrir donc l'apparente inaction divine dans les drames humains. Il semblerait que Dieu ne bouge pas. On l'a lu, hein. Seigneur, pourquoi tu laisses les choses comme ça ? Pourquoi elles vont de mal en pis ? Nous allons passer ensuite par ces interventions divines contradictoires et inattendues. Oui, quelquefois c'est contradictoire à notre pensée, à notre réflexion. Il y a également à prendre en considération dans ce petit livre les instruments inhabituels pour nous, dont Dieu se sert pour réaliser sa volonté. Nous, on n'aurait jamais certainement fait ça. Il y a également l'incompréhension des hommes et la façon dont Dieu dirige l'histoire de toujours, parce que notre histoire d'aujourd'hui, finalement, c'est nouveau pour nous, mais pour le Seigneur qui est dans le temps, l'espace et l'éternité, mais pour lui, il a un plan. Hein. Et croyez bien que ce plan, il ne variera pas d'un iota. Il va l'accomplir. Depuis la proclamation du salut dans le jardin d'Éden, jusqu'au moment où les rachetés rentreront, seront enlevés, l'Église sera enlevée dans le ciel, mais rien ne changera. Et c'est l'histoire de l'Église, mais c'est aussi l'histoire du monde, hein, les hommes. Hein. Alors il peut y avoir des Napoléons, il peut y avoir des grands hommes d'État et tout ce que voudrait, mais ils sont dans la main de Dieu, il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Même le petit moustachu d'il y a 60 ans, il était dans la main de Dieu. Hein. Enfin bon, il était plutôt du service de l'autre. Hein. Mais néanmoins, je peux vous dire que rien ne lui échappe. Hein. Rien ne lui échappe. Et puis il y a le facteur temps, où Dieu règle la marche de l'humanité selon ses plans, en raison de son royaume à venir. C'est ça, c'est la complémentarité de ce que je disais précédemment. Oui, tout est réglé en fonction de ce royaume qui vient, et non pas des royaumes de la terre et des rois couronnés, tout ce que vous voudrez. Et puis on va terminer. Et comment se réjouir au sein des tribulations dans l'attente du secours ? Seigneur, ça brûle. C'est chaud. C'est dur. C'est insupportable. Je ne peux plus, Seigneur. Alors, ce sont des cris, ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous est donné comme un secret qui nous montre, non pas comment patienter, mais comment se réjouir dans l'attente du secours et de la délivrance de Dieu. Réjouir, j'ai dit, hein, de la joie. C'est tout un programme. Alors, la première étape, elle est simple. On va la relire. « Jusque à quand, dit le prophète, au Éternel, j'ai crié. Et tu sembles complètement ne pas m'écouter. J'ai crié d'abord à la violence. » Ensuite, eh ben, tu ne réponds pas, tu ne me secours pas, et j'ai mal. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ? Parce que moi, je suis un chrétien, je suis un prophète hein, qui sert ton nom, et je devrais voir la sainteté. Et pourtant, tu me montres l'iniquité. Pourquoi les oppressions et la violence sont-elles devant moi ? Il y a la guerre partout. Les gens sont en train de se déchirer les uns les autres. Ça, c'est l'iniquité, c'est toutes sortes de choses mauvaises. Et puis, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a de la discorde. La discorde, elle est partout. Elle est dans les partis politiques, vous en connaissez un rayon. Hein. Elle est dans les familles, elle est dans les couples, elle est entre parents et enfants et puis vice-versa. Elle est dans les églises aussi, malheureusement. Parce qu'elle existe, hein. Elle existe aussi là, la querelle. Seigneur, tu me montres tout ça. Et la loi, ta loi, Seigneur, moi je la connais, je l'ai sur mon cœur et je la sers. Eh bien, c'est comme si les hommes, même les hommes qui prétendent te servir, les sacrificateurs, hein, les lévites, et puis ceci et cela, j'ajouterai rien d'autre, mais il a foulé aux pieds ta loi. Il s'en moque, tout simplement. La justice, ah, n'en parlons pas de la justice, c'est du bricolage. Voilà, on se sert des lois, avec les lois, on fait des contre-lois, et il y a des passe-droits. Et on passe par-dessus la loi. On devient des hors-la-loi. Pas dans la loi, mais hors-la-loi. Et le méchant, oh, il est beau le méchant, hein, il se moque de tous ceux qu'il piétine. Et il dit, je suis fort. Voilà. Le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements qui sont véritablement eh bien, des choses épouvantables. Là, nous touchons du doigt à une chose, c'est l'incompréhension devant le mal grandissant. Oh, nous ne sommes pas dans une société comme ça. Vous savez, ça va être difficile hein, de faire des choix. Ça va être difficile l'année prochaine de faire des choix. Enfin, moi, je ne suis pas là pour vous influencer. Parce que vous savez, c'est difficile. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On entend l'un, on entend l'autre, on dit ceci, on dit cela, etc., etc. Enfin, bon, moi, j'arrête, hein, mais... Et puis, dans la vie, dans notre société, dans un monde où il n'y a plus de principes, où il n'y a plus de repères, hein, où les gens font n'importe quoi, n'importe comment, et... C'est difficile, hein ? Il y a un passage dans un psaume qui nous dit mais quand les fondements de la société sont renversés, que ferait le juste ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Ça, c'est l'incompréhension. On souffre. Nous sommes tous, si nous sommes véritablement à aimer le Seigneur, mais nous sommes tous des abacuques, hein, quelque part. Hein. Comme un fameux Lot hein, qui tourmentait son âme jour et nuit de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Vous connaissez ? Livre de Jude. Alors, cette incompréhension dans un mal qui grandit, et surtout quand Dieu ne fait rien et qu'il ne dit rien. Alors, pourquoi Dieu ne fait rien et ne dit-il rien ? C'est que Dieu est en train de préparer à dire quelque chose où il l'a déjà dit, et il va le faire. Ça ne manquera pas, hein ? Mais il y a un temps. On l'a souligné tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se prépare. Mais quand il va faire quelque chose, il ne nous consulte pas. Il ne nous dit pas, ben voilà, tu sais, alors je peux vous dire, on écrit déjà pas mal de choses, alors si on savait déjà les choses à l'avance, ça serait terrible. Hein. On raconterait des sottises et des bêtises. Alors Dieu nous a parlé à travers sa parole, ça nous suffit. Et maintenant, il faut se faire conduire par le Saint-Esprit. Sans spéculation, sans interprétation fallacieuse. Seigneur, je t'attends. je t'attends et c'est toi qui conduiras et qui dirigeras les choses. Écoutez, c'est terrible ce qui se passe là. On est quand même dans le peuple de Juda, et le peuple de Juda a pour capitale Jérusalem, qui est le lieu saint, où il y a le temple, où il y a la loi, où il y a normalement censé être la présence de Dieu, où le peuple doit l'adorer, le prier, l'adorer. Et c'est là où ça se passe. Vous savez, Jésus n'a pas trouvé autrement. Hein. Quand il est venu, vous savez, quand il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a trouvé? Wall Street. Oui, il a trouvé les affaires. Il a trouvé du mercantilisme. Il a trouvé du consumérisme. Il a trouvé tout ça. C'était que des affaires d'argent et de... D'ailleurs, vous savez comment il a fait? Il a renversé tout ça. Hein. Et notre monde, il est comme ça. Vous savez, il y a un Dieu, hein. Il y a toujours eu un Dieu. Mais là, aujourd'hui, il est quand même mis sur un piédestal. Il s'appelle, je vais vous dire le nom, hein. C'est le nom que Jésus lui donne, Mammon. Et avec ça, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et tout est acheté. Même la justice est achetée. Toutes sortes de choses. Alors, Habacuc, dont le cœur est pur, eh bien, va être complètement et totalement déchiré de tout cela. Et il ne veut pas comprendre. Parce que ça ne s'arrête pas et apparemment, bien, les choses vont comme cela, tout simplement. L'oppression, la violence sont devant moi. Le méchant triomphe du juste. Le deuxième point, la deuxième étape, nous la trouvons dans le chapitre 2 et on va lire encore 4 versets. Chapitre 2. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement, voici, son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Après l'incompréhension où le prophète est complètement déboussolé, il est question de la patience dans l'épreuve, dans l'affliction et de la persévérance à attendre Dieu. Le croyant doit être exercé et il est appelé, exhorté à faire preuve de patience. Et particulièrement dans les choses que nous ne comprenons pas. Vous savez qu'il y a cette parole que celui qui agit avec précipitation ne court qu'à la disette. C'est la parole de Dieu. Et c'est souvent lorsque nous ne comprenons pas que nous essayons d'accélérer la marche ou de tirer un petit peu hein, la manche du Seigneur en disant « Seigneur, c'est pas possible, hein, tu fais vite pour me dire ce que j'ai besoin de savoir. Hein, parce que quand je saurai, ben, je croirai. Ou quand je saurai, j'obéirai. Ou quand je saurai, eh bien peut-être que ça va m'éclaircir et puis qu'à ce moment-là, on cherche notre paix, c'est sûr. Hein. Mais attendez, c'est pas comme ça que le Seigneur procède. Alors, après avoir prié, après avoir crié, le prophète va monter, tout simplement, comme il l'appelle, à son poste. Et vous savez que notre poste pour nous, vous savez comment il est? Comment il s'appelle? C'est la prière. Nous montons à notre chambre haute. Nous fermons les portes. Et tu pries, ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le dira. Mais ça ne viendra peut-être pas forcément tout de suite. Voilà. Ou te le montrera, ou te le rendra. Alors, il se tenait sur la tour, qui est quand même le lieu élevé, qui est l'image, on pourrait dire, finalement, de l'intercession et de la prière. Et il ne nous est pas dit qu'il a eu une réponse tout de suite, parce qu'il nous est dit, finalement, qu'il veillait. Prier, c'est veiller. C'est revenir avec persévérance, avec pugnacité, avec insistance, comme la prière importune de l'ami qui vient frapper à la porte de son camarade à minuit. Ça fait toujours très plaisir. Je veillais, et il veillait pour une bonne raison. Et vous avez remarqué le mot « pour voir ce que l'Éternel me dirait ». Alors il y a là comme une contradiction parce que il est question de voir et d'entendre. Alors Dieu va parler et ensuite, après avoir parlé, le croyant va voir parce que Dieu l'accomplit. Il y a toujours quelque chose, une nuance et un rapport très fin qui nous montre que quelque part, eh bien, Dieu accomplit sa parole. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et puis, le prophète, il se disait aussi, sans mauvaise intention, il dit, et moi je répliquerai après ma plainte. Il avait un petit démêlé avec le Seigneur, certainement très bon et très saint, mais il se dit, mais moi je veux dire à Dieu ce que j'ai à dire. Vous savez que quelquefois, quand on est un peu dans cette situation d'affliction, on dit, Seigneur, mais pourquoi tu as permis? Pourquoi tu laisses ça? Et pourquoi tu ne m'as pas répondu? Donc, c'était répliquer après ma plainte. Geindre, pleurer, gémir. Alors, à ce moment-là, comme les choses sont bien entendues, l'Éternel m'adressa la parole, dit Habacuc, et il me dit, et ça c'est important pour chacun d'entre nous, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Heureusement qu'on a la parole de Dieu aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'on a ces 66 livres inspirés de Dieu, écrits avec des lettres de feu qui nous descendent du ciel. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand même, il y a une telle ignorance de la parole de Dieu au dehors, mais quand même, il y a une absence parfois de consécration à la lecture de la parole au milieu du peuple de Dieu. Et nous l'avons, cette parole. Moi, je ne suis pas là pour faire des reproches, parce que finalement, on va grandir avec ce que nous sommes disposés à bien vouloir manger. Hein ? Un enfant, il grandit quand il mange. Eh bien, un chrétien, il grandit quand il prend, et il fait de la parole de Dieu la manne divine. Voilà. Alors, il nous est dit, écris la prophétie, parce que c'est ton rôle à toi, prophète. Tu vas la graver sur des tables, parce que le papier, ça brûle, mais sur des tables de pierre. Vous savez, comme Job, qui reçoit un message qui est celui de la résurrection, il dit, Dieu lui dit, mais tu vas graver ça sur des tables. Je voudrais que mon histoire soit gravée sur des tables de pierre. Eh bien, c'est gravé. C'est comme la loi de Dieu de Sinaï, c'est pareil. Ça ne bouge pas. Même quand on les casse, ça reste vivant et ça demeure, en tous les cas, l'esprit. Afin qu'on la lise couramment, parce que c'est une lettre qui doit être ouverte. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette histoire Habacuc qui vivait il y a des siècles et des siècles, eh bien, ça nous vient, on en parle encore en 2011. Formidable. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Je vous le disais tout à l'heure dans la présentation du livre d'Habacuc, c'est qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu tient parole. Ah oui, nous les hommes, on est renfermés dans le temps, on est toujours avec notre chronomètre, nos montres, nos horloges et nos pendules, et on dit, mais oh là là, on n'est pas tout à fait à l'heure. Oui, on voudrait que ça aille toujours plus vite. Mais pour Dieu, vous connaissez la formule, un jour est comme 1000 ans, et puis voilà, le contraire naturellement. Alors, les choses sont en route. Le monde de demain, le monde de 2020, de 2050, si le Seigneur n'est pas revenu, enfin pour tout le reste, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous le dire, mais toujours est-il que les choses sont bien cadrées, et il n'y a pas une minute qui va dépasser, une minute avancée, c'est comme ça. Moi, je suis heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui est au ciel et qui est souverain sur toute chose. Et ça rassure l'Église et ça rassure les chrétiens. Alors, dont le temps est déjà fixé, et ça marche, je ne m'aperçois pas que ça marche. Mais quand je regarde à la lumière de la Bible, je me dis mais que ça marche quand même. Les événements mondiaux, les événements sociaux, les événements, tout ce qui peut se passer d'une manière ou d'une autre, je me dis mais Seigneur, c'est en route. Avec des points de repère et des signaux qui s'allument, qui s'éteignent, etc., etc. Voilà. Car si elle tarde, eh bien, tu l'attends. Et c'est ça, l'attente de l'Église et des enfants de Dieu du retour de Jésus-Christ. Tu attends. Vous êtes pressés? Sommes-nous pressés? Nous sommes des gens pressés. Mais pourtant, Dieu nous a dit, attends-la. Si tu ne comprends pas pourquoi, ben attends, parce que le Seigneur a une réponse. Mais attends là. Ne fais pas les choses par toi-même. N'essaie pas de faire des déductions et ceci et cela, parce que tu vas t'égarer dans toutes sortes de choses qui vont être préjudiciables et tu risques de te perdre. Attends là, car elle s'accomplira certainement. Et en parlant de la nation d'Israël, de Juda en particulier, parce qu'il s'agit de Juda, il dit ceci, c'est Dieu qui fait la déclaration, voici, son âme s'est enflée. Et vous savez, le grand problème de l'humanité, le grand problème parfois aussi de l'Église et des chrétiens, c'est l'orgueil. Parce que nous pensons que nous sommes plus forts que Dieu, que nous connaissons mieux que Dieu, et que nous serions presque des conseillers de Dieu. Seigneur, tu ne comprends pas? Ben moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Le Seigneur, après, il va nous remettre en place, je peux vous le dire. Oui, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Ouais. Ça, c'est une révélation, finalement, eh bien, de la nature même du cœur de l'homme qui est tortueux et par-dessus tout méchant. Mais par contre, nous avons quelque chose de formidable que nous retrouvons trois fois dans le Nouveau Testament. C'est cette parole, « Mais le juste vivra par la foi ». Alors, nous vivons par quoi ? Notre religiosité, nos habitudes de ceci, de cela, est liée avec la connaissance que nous avons. Non, nous vivons par la foi, frères et sœurs. Nous vivons par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il est déclaré juste parce que c'est la foi. Et ça, c'est déjà une annonce anticipée de ce monument doctrinal qu'est l'Épître aux Romains. Le salut par la foi. Nous sommes justes aux yeux de Dieu parce que nous croyons en lui, tout simplement. Simplement. Mon juste vivra par la foi. La foi est la règle de la vie. C'est la règle de la vie des chrétiens. Écoutez, il y a ce texte magnifique. Je vous le restitue dans le livre des Hébreux au chapitre 10 et au verset 35. Écoutez bien. C'est une exhortation. N'abandonnez pas votre assurance. Nous avons une assurance ? Alors, je ne veux pas vous demander la compagnie. Hein. Non, vous avez une assurance. Une assurance spirituelle, une assurance de l'âme, comme une ancre. Et vous savez que nos grands navires, eh bien, ils se maintiennent. Moi, je n'y connais pas grand-chose en marine, mais quand même, les bateaux, ils arrivent à se stabiliser quand ça, parce qu'il y a une ancre. Voilà. Enfin, je suppose. Hein. Je verrai mon capitaine. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une bénédiction derrière tout cela. Rémunération, c'est salaire. Mais c'est plus que la notion de salaire. C'est comme un satisfici de Dieu qui nous dit, bien parce que tu as cru, eh bien, moi je te donnerai le résultat de ta foi et de ton obéissance, parce que finalement tu me fais confiance. Car vous avez besoin de persévérance, c'est ce qu'on a dit, hein, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, lorsque nous restons dans les clous, hein, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Ça pour l'air, mais enfin bon, toujours est-il que moi je crois que c'est formidable et merveilleux. Afin que vous obteniez ce qui a été promis, c'est magnifique ça. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, car mon juste vivra par la foi. C'est l'autre citation que nous trouvons dans l'Épître. Hein. Voilà. Seigneur, merci. Hein. Merci de savoir tout cela. Troisième et dernière étape. Alors là, nous allons aller à la fin du livre, et on va lire une partie du chapitre 3 à partir du verset 16. Alors le prophète dit ceci, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Voilà. Alors là, je peux vous dire que c'est le grand bonheur. Parce que finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le prophète a prié, il a crié, il a reçu un message de Dieu d'attendre. Le message de Dieu lui vient avec l'ordre de l'écrire et que ce soit ouvert à tous. C'est pour ça que nous pouvons le lire aujourd'hui. Avec cette parole qui doit nous aider à traverser les difficultés et les problèmes, les tribulations et les tourments, mon juste vivra par la foi. Ça, il le sait, le prophète, il vient de l'entendre. Alors il dit après, j'ai entendu. Il y a beaucoup de choses que nous entendons et que nous oublions. Mais j'ai entendu et à ce moment-là, ce n'est pas une parole qui réjouit. Hein. C'est une parole terrible. C'est une parole catastrophique. C'est une parole désastreuse, dramatique, hein, parce qu'il donne ses sentiments. Mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. Alors ça, ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas réconfortant. Hein. Et pourtant, il l'a entendu. C'est ce que Dieu lui a dit. Dieu aurait pu dire, écoute, toi, tu es un bon petit prophète. Je veux m'occuper de toi dans la tempête. Je te mettrai de côté comme Élie, je t'enverrai à Kérit. Et puis, tu n'as pas de souci. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Il entend et il reçoit ça comme un message terrible. Alors, c'est pour lui. Est-ce qu'il pense à sa vie ? Peut-être. Mais il pense surtout au malheur qui attend Judas, parce que quand les Chaldéens vont venir, ils vont faire aucun quartier. Les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les femmes enceintes seront éventrées, c'est écrit. Il y aura des choses calamiteuses, des choses terribles. Les vieillards aussi seront massacrés et les gens mourront de faim. Les gens seront emportés en déportation. C'est terrible. C'est pas réconfortant en tous les cas. Et lui, il l'entend, le prophète. Et il en tire la conclusion, il doit dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a des choses qu'on ne devrait pas entendre. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas entendre, qu'on ne voudrait pas entendre, parce que finalement, après les avoir entendues, ça nous trouble. Et lui, le prophète, les entend. Et il dit en silence, « Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans une situation qui était, somme toute, mondiale pour lui, quand il y a une menace de guerre, quand il y a une menace de destruction, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, le simple citoyen que nous sommes, ou le simple chrétien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prier, c'est tout, et pleurer. Mais on ne va pas arrêter le cours des choses parce que ça nous dépasse. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que nous, de nos possibilités, de notre compréhension. » Alors, il dit « Je dois attendre », mais il le dit avec une... C'est terrible. Terrible de devoir attendre et de ne pas pouvoir arrêter le cours des choses. Détresse, l'oppresseur. Et il va y avoir même des répercussions sur le peuple qui va toucher chacun et chacune, ne serait-ce que dans sa vie quotidienne, parce qu'il n'y aura plus d'alimentation, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus les choses essentielles à la vie. Encore dire peut-être de la survie, c'est encore une autre chose. Il dira, mais le figuier qui est l'emblème d'Israël, il ne va pas fleurir, donc il n'y aura pas de fruits. Ensuite, la vigne qui est l'emblème de la joie, on ne va plus se réjouir, parce que finalement, la vigne, elle donne du vin. Et le vin, c'est l'image finalement de la réjouissance. Le fruit de l'olivier, l'huile, vous savez, l'huile qui guérit, l'huile d'onction, l'huile qui apaise, eh bien, il n'y aura plus de guérison. Parce que finalement, il n'y aura plus d'olives. Et puis, les champs ne donneront plus de nourriture. Alors, il n'y a plus le bon froment avec lesquels les Israélites faisaient du bon pain et des gâteaux. Plus rien, c'est la famine. Et puis, les brebis disparaîtront du pâturage, c'est-à-dire tout ce qui peut être substantiel et ce qui peut être bon, naturellement. Et également, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Alors, les labours. Et puis, tout le reste. Tout ça va s'arrêter du jour au lendemain. Vous savez, c'est terrible quand un pays s'arrête. Terrible. Et il y a beaucoup de victimes. C'est terrible. Alors, il le constate tout simplement. Et voilà que nous avons la clé et nous avons la chute de cette histoire, en quelque sorte. Elle est heureuse. Elle est à chaque fois heureuse avec le Seigneur. Elle est toujours bénéfique et c'est une grâce que Dieu nous donne lorsque finalement, eh bien, il nous dit... Et il nous parle de ce qu'il va faire. Et il va le faire. Et c'est là où le prophète va changer complètement et radicalement de discours. Ce n'est pas les encouragements de Dieu qui vont lui donner de dire ce qu'il va dire. Il va dire, toutefois, je veux, malgré les calamités, malgré les désastres, malgré les tsunamis, le séisme, les éruptions volcaniques et malgré les bombes atomiques et tout ce que vous voudrez, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En précisant, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. En d'autres termes, frères et sœurs, ça veut dire, écoutez bien, si le miracle espéré était tout autre ce que nous attendons. Le prophète pouvait espérer que Dieu fléchisse, qu'il arrête les Chaldéens aux frontières et qu'il n'y ait pas toutes ces choses terribles et prévisibles qui vont arriver. Ça, c'est humain. Mais le miracle, il va y avoir un miracle quand même. Et un miracle qui nous dépasse. Mais c'est le miracle que Dieu fait tous les jours dans nos vies. Vous allez voir ce que c'est. Le miracle espéré va être à l'inverse ou tout autre que ce qui était attendu par Habacuc. Je l'appelle le miracle de, ou le miracle dans l'invisible intérieur, dans nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Ça ne sera pas un miracle extérieur, parce que les choses ne vont pas changer, les choses conduiront et suivront leur cours, extérieurement. Mais la grande différence, et ça c'est le miracle de Dieu le plus grand et extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas changer l'extérieur, il va changer l'intérieur, du cœur du prophète, de son esprit et de son âme. Et ça, c'est le miracle de l'invisible. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance ?
Eh bien, c'est ça. C'est changer l'homme de l'intérieur. Et quand l'homme est changé de l'intérieur, eh bien, alors à ce moment-là, on peut, un soupçon, espérer que dans notre petit entourage ou notre petit monde à nous, nous soyons une bénédiction pour que ça change aussi à l'extérieur. Mais ça commence de l'intérieur. Ça commence à l'intérieur de nos cœurs. Et le prophète qui pleure, qui gémit, le prophète qui est profondément malheureux, eh bien, va se réjouir. C'est un coup de maître. Donc, les fruits de ce miracle intérieur, c'est un mot, une phrase, sont les certitudes de la foi. Et c'est ça ce que nous avons besoin. L'Église a besoin de grandir dans les certitudes de la foi. Nous avons besoin de grandir dans nos assurances de notre foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de grandir dans cette confiance, toujours de plus en plus dans cette confiance en Dieu. Et là, le ciel et la terre peuvent passer. Il peut y avoir toutes sortes de choses dans notre monde, politique ou autre, dans notre vie personnelle. Nous sommes fondés sur le roc. Comprenez ce que ça veut dire ? C'est simple, hein ? C'est un miracle intérieur qui va se passer. C'est le livre qui révèle, Habacuc est le livre qui révèle, le miracle puissant de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. À ce moment-là, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus de frayeur, nous n'avons plus de terreur, nous n'avons plus d'épouvante, toutes ces choses qui sont terribles. Nous avons les certitudes de la foi. Inébranlables. C'est formidable. Les certitudes de la foi. Alors il dit, malgré tout cela, je veux me réjouir. Et vous avez remarqué, ce n'est pas Dieu qui le réjouit. Hein. C'est lui qui veut se réjouir en Dieu. Complètement changé. Parce que si nous voulons, nous pouvons. Si nous ne voulons pas, ben nous allons rester dans notre morosité, notre médiocrité, et avec notre foi qui est, comme on le disait vendredi dernier, un petit peu comme Thomas, vous savez. Et là, on va être malheureux. Hein. Il ne faut pas rester dans ces prisons-là. Parce que le peuple de Dieu, et nous sommes profondément malheureux avec ça. Alors, je veux, dit-il, et il le dit deux fois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que Dieu est notre salut. Dieu est celui qui détient toutes les réponses et toutes les solutions, et il les donnera en son temps, en son heure, selon sa volonté, selon son plan, réglé sur son royaume qui vient. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. C'est dans la confiance et dans la tranquillité que sera votre salut. Vous connaissez, hein ? Ésaïe, chapitre 30, verset 15, première partie. Vous en souviendrez, hein ? Et ce sont des beaux textes que nous avons besoin de mémoriser. C'est ça ce qui nous fait vivre. Nous mémorisons les textes de la parole de Dieu. Alors, je veux me réjouir parce qu'il est ma force et est extraordinaire parce qu'il avait plutôt envie de se cacher dans les cavernes et dans les antres de la terre, le prophète. Et vous savez ce qu'il dit ? Au lieu de regarder en bas, il regarde en haut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous savez, les isards ou les chamois, c'est un bel animal. Et quelquefois, on les voit, enfin, pour Saint-Nazaire, mais on les voit en film ou les choses comme ça, on dirait qu'ils volent au-dessus des montagnes. Ils ont une vélocité, célérité, oui, pas célébrité aussi, mais toujours est-il que c'est comme s'ils volaient par-dessus les monts, comme ça, c'est formidable. Eh bien, un chrétien qui a été changé de l'intérieur devant les situations négatives et terribles de sa vie, eh bien, est capable de faire comme les biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Auparavant, j'étais dans mes lieux bas, dans l'obscurité, dans le malheur, dans les gémissements, dans toutes sortes de choses. Mais maintenant, je peux louer et adorer le Seigneur. Tous nos cantiques le disent. Tous nos cantiques le disent. Je termine par un simple texte dans la parole. Vous le connaissez, c'est peut-être la chose que vous avez besoin de mémoriser, si vous voulez vous souvenir de ce passage. C'est dans Jean 13. Écoutez, c'est Pierre qui discute avec Jésus. Et Jésus s'entend dire, Pierre s'entend dire par Jésus cette parole, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras
bientôt plus tard. Alors, mes frères et sœurs, on ne s'impatiente pas. On reste dans la foi, dans la patience, dans la persévérance. On fait confiance au Seigneur et lui va faire des choses extraordinaires dans notre vie. On peut le dire aussi, c'est vrai pour l'Église. On peut toujours se lamenter de dire « mais notre Église, elle est pauvre hein. ». C'est vrai, notre Église, elle est ceci et cela. Mais moi, en tous les cas, en tant que pasteur de cette Église, moi, je crois que le Seigneur est capable de changer les choses et moi, je ne veux pas me laisser démonter. Hein. Ah non, certainement pas. Hein. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, moi, je ne veux pas me laisser démonter. Parce que finalement, Dieu ne nous a pas appelés à notre succès personnel, il nous a appelés à sa gloire et à son succès à lui. Alors, mon juste vivra par la foi. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier quelques instants maintenant. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Moi, je veux te dire et nous voulons te dire ensemble, c'est vrai, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout, Seigneur. Mais une chose que je sais, c'est que toi, tu sais tout et tu peux tout. Et Seigneur, tu m'as rappelé ce matin que s'il y a une marche qui te glorifie, que tu agrées, eh bien, c'est de voir tes enfants marcher par la foi. Et nous te bénissons pour cela. Et peut-être, un petit peu à l'image de Pierre, eh bien, en effet, tu me rappelles que si je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur, une chose qui est certaine, c'est que tu me demandes tout simplement, eh bien, de te faire confiance. Parce que si je ne comprends pas maintenant, je le comprendrai bientôt. Merci Jésus, merci pour ta grâce, bénis-nous de ta parole et fais-nous grandir afin que nous devenions des hommes et des femmes mûrs, hein, que nous devenions des adultes spirituels et qu'ainsi Seigneur nous soyons justes par la foi qui remplit nos cœurs. Amen.